France Info.
France Info. Question d'éducation, votre rendez-vous avec l'actualité de l'éducation et Emmanuel David-Enkoff. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
On apprend mieux en faisant qu'en suivant un cours magistral. C'est le résultat d'une large étude conduite par des chercheurs américains.
Oui, une étude qui porte sur l'enseignement à l'université dans ce que les anglo-saxons appellent les STEM, sciences, technologies, engineering avec un E en anglais, ingénierie en français, et mathématiques. Cette étude rappelle que depuis 900 ans, dans tous les pays occidentaux, le cours magistral est le modèle dominant d'enseignement. Le professeur parle, l'étudiant écoute en principe du moins et écrit. C'est le teaching by telling, l'enseignement par la parole. Celui qu'on oppose donc ici aux méthodes dites actives, le learning by doing, apprendre en faisant.
Et ce dernier est plus efficace.
Il le semble. Pour le démontrer, les chercheurs ont compilé les résultats de 225 études et le résultat est net. Le risque d'échec aux examens est une fois et demie plus élevé pour les étudiants qui ont été enseignés via des cours magistraux. Autre indicateur, les notes obtenues par ceux qui ont bénéficié des méthodes actives sont en moyenne 6% plus élevées.
Concrètement, Emmanuel, que mettons derrière cette expression de méthodes actives ?
Eh bien, toute une palette de dispositifs dont certains sont bien sûr déjà en œuvre dans les universités et plus encore dans les grandes écoles. Exemple, la résolution de problèmes en groupe. On vous soumet un énoncé et à plusieurs, vous allez chercher à le résoudre en recherchant des informations sur Internet, en confrontant vos pistes, en testant des hypothèses. Autre exemple, les travaux pratiques en laboratoire. Où on va commencer via des expériences par essayer de résoudre une question avant d'en tirer éventuellement une règle générale. En France, c'est une approche bien connue qui a été popularisée par la main à la pâte. Exemple encore, la classe inversée dans laquelle vous apprenez la leçon avant le cours, lequel consiste alors en un échange avec l'enseignant sur ce que vous n'avez pas bien compris ou encore sur les points sur lesquels vous voulez aller plus loin. Exemple enfin, les jeux sérieux, les serious games qui permettent de travailler avec l'enseignant sur les raisons pour lesquelles à tel ou tel moment du jeu vous avez agi ou réagi de telle façon.
Cela transforme complètement le rôle de l'enseignant.
Absolument, il devient mentor ou tuteur autant qu'enseignant et il initie les étudiants aux démarches que lui-même met en œuvre dans le cadre de ses recherches. C'est un système dans lequel apprendre à apprendre est au moins aussi important qu'apprendre tout court. Un système aussi dans lequel on s'initie directement à ce qui fait la singularité de l'université par rapport à l'enseignement secondaire, à savoir que c'est un lieu de recherche et pas seulement d'enseignement.
Alors on parle beaucoup de la révolution des MOOC, ces cours massifs en ligne. Dans quelle catégorie les ranger ?
Eh bien ça dépend en fait. Tout dépend notamment de la façon dont ils sont conçus et de la façon dont vous les utilisez. Si ce MOOC, ce cours massif en ligne, s'il se résume à un cours magistral filmé, eh bien au fond il n'apporte absolument rien de neuf par rapport au vrai cours magistral. Et d'ailleurs le décrochage intervient en moyenne au bout de 6 minutes. C'est un chiffre qui est donné par la plateforme de cours en ligne edX. Plus intéressant, le MOOC a sorti de quiz ou de problèmes à résoudre, mais là, c'est toujours l'usager qui a la main. Et d'ailleurs, edX est en train de collecter des millions de données sur la façon dont nous nous y prenons face à ce type de MOOC. Est-ce qu'on commence par regarder le cours ? Est-ce qu'on commence par faire des quiz ? Par essayer de résoudre le problème ? Etc. Troisième hypothèse, vous utilisez votre MOOC dans le cadre d'une classe inversée. On vient d'en parler. Dans ce cas, il se marie vraiment très très bien avec des méthodes actives. Il vient en quelque sorte en amorce. Et puis, quatrième formule possible, il est utilisé non pas chez soi avant le cours, mais en cours avec présence physique des enseignants et donc une articulation immédiate, directe, présentielle avec les méthodes actives.
En fait, on en parle beaucoup depuis quelques temps, mais le modèle n'est pas encore stabilisé.
Absolument. Ni le modèle pédagogique d'ailleurs, ni le modèle économique, parce que pour le moment, personne ne sait encore comment gagner de l'argent là-dedans. En revanche, ça bouge beaucoup du côté des méthodes actives présentiel, la démocratisation des imprimantes 3D, des outils de découpe laser qui coûtent de moins en moins cher, cette démocratisation est en train de reconfigurer complètement les pédagogies centrées sur le faire. Partout dans le monde se multiplient les Fab Labs, ces vastes ateliers où vous trouvez tous les outils, y compris numériques d'ailleurs, qui permettent de travailler la matière. Et il est clair que l'étude de nos chercheurs américains plaide pour leur développement encore plus rapide. Je rappelle qu'en France, comme aux États-Unis, les universités manquent de candidats en fac, en sciences et dans une moindre mesure en technologie. Et avec ces Fab Labs, on a vraiment de quoi donner de l'envie. Et cette étude américaine montre que les étudiants qui sont confrontés à ces méthodes dès le premier cycle universitaire sont nettement moins nombreux à abandonner que les autres. Vous avez donc au fond un enjeu de politique publique, comme souvent, qui se cache derrière cette question en apparence purement pédagogique.
Merci Emmanuel David-Enkoff. On retrouve évidemment un lien vers cette étude à la rubrique « Questions d'éducation » sur franceinfo.fr.